France Info.
L'invité de France Info ce matin est député du Nord et porte-parole du Rassemblement National. Renaud Dely est à mes côtés.
Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour.
Les députés britanniques ont donc de nouveau largement repoussé hier à la Chambre des communes l'accord qui avait été négocié par Theresa May avec l'Union européenne. Et il n'y aura pas de nouvelle chance qui leur sera accordée. C'est ce qu'a dit ce matin sur France 2 le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici.
Il n'y aura pas de négociation dans les jours qui viennent et d'ici au 29 mars. Il y a eu plusieurs chances, le train est passé une fois, le train est passé deux fois, il y a eu deux votes tous les deux massifs du Parlement britannique. Les Européens, l'Union européenne a fait tout ce qu'elle a pu pour offrir des solutions, garantir, assurer, réassurer.
On s'oriente donc vers un Brexit sans accord, est-ce qu'il faut le craindre Sébastien Chenu ?
Non, je ne crois pas et je ne crois pas vraiment ce que dit Pierre Moscovici. Que s'est-il passé en réalité hier soir ? Theresa May n'a pas réussi à faire voter effectivement devant son Parlement l'accord. Je note tout de même qu'elle a gagné 95 parlementaires supplémentaires. Alors, il y a encore une majorité importante qui a refusé, mais enfin, il se passe des choses en Grande-Bretagne.
Il faudrait qu'elle présente une troisième fois.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se passe des choses en Grande-Bretagne. On ne revient pas à chaque fois au point de départ. Que se passait-il ? En fait, le choix politique, il est clair chez les Britanniques. Ils veulent sortir. Et donc, ils sortiront. Ça, c'est le choix politique. Ce qui n'est pas clair, ce sont les modalités techniques. Ce qui démontre quand même que cette Union européenne, elle a quand même un problème d'organisation manifeste. Elle est, quand on dit qu'elle est carcérale, oui, l'Union européenne est carcérale. Le fait de ne jamais avoir imaginé qu'un pays puisse sortir, pour une raison ou pour une autre, parce que on ne sait pas comment l'histoire s'écrit, et laisser aujourd'hui cette situation, qui est celle, sincèrement, assez inadmissible de dire, on va faire payer très cher aux Britanniques le prix de leur sortie. Pour quelle raison ?
C'est pas l'Europe qui bloque aujourd'hui, Sébastien Chenu. On est bien d'accord que c'est le Parlement de Westminster qui n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est le Parti conservateur britannique qui est déchiré.
Non, pas seulement.
Vous dites que c'est la faute de l'Europe quand les Anglais n'arrivent pas à s'entendre.
Quand Pierre Moscovici dit, il n'y aura pas, il y aura un délai supplémentaire, vous verrez, qui sera accordé. Il y aura un délai parce que c'est aussi l'intérêt de l'Union européenne que les choses se passent bien. Donc l'idée de faire ce cinéma, d'affoler les populations, de mettre une espèce de pression, moi je trouve est assez irresponsable. L'Union européenne n'a pas réfléchi.
Pourquoi Theresa May a-t-elle signé cet accord ?
Theresa May a signé cet accord parce que elle est mandatée par son peuple pour sortir de l'Union européenne. Mais les conditions de cette sortie ne la satisfont pas, ne satisfont pas les Britanniques. Mais je crois même qu'elles ne satisfont pas les Européens en réalité. Par conséquent, il va bien falloir trouver une sortie.
Donc vous réclamez un délai. Il faut accorder un délai.
Mais bien sûr, moi je souhaite que les choses se passent bien.
Et sur quoi l'Union européenne doit-elle lâcher ?
Pourquoi il faut que les choses se passent bien ? Parce que nous y serons tous gagnants en fait que ça se passe bien. Évidemment, les Britanniques veulent sortir. Est-ce qu'on peut partir de ce principe ? Qui est de respecter leur choix et d'arrêter d'imaginer qu'il faille faire payer ce divorce le plus cher possible.
On respecte tellement leur choix, Sébastien Chenu, qu'on leur demande de voter au Parlement.
Là, ce que dit Pierre Moscovici ce matin, ce n'est pas ça. C'est de dire, finalement, le train, je reprends son expression, le train est passé, vous n'aviez qu'à saisir votre opportunité, il y aura une autre chance. Et l'idée de dire qu'on veut mettre la pression sur les Britanniques, ça a une logique. C'est parce que derrière, on veut montrer à des pays qui aurait peut-être l'idée, un jour, ou parce que l'histoire pourrait s'écrire autrement, de sortir de cette Union européenne, eh bien que tout ça est très difficile. On veut dégoûter les pays de pouvoir le faire.
Est-ce que justement les Brexiteurs britanniques, lors de la campagne, n'ont pas oublié d'aborder un certain nombre de thèmes devant leurs électeurs, par exemple la question de l'union douanière ou du retour d'une frontière au cœur même de l'Irlande ? Est-ce qu'il n'y a pas eu mensonge sur la marchandise lors de la campagne ?
Cet argument, il n'est pas valable. Parce que ça voudrait dire, les Britanniques ont mal voté. Ils ne savaient pas tout. On ne leur a pas tout dit. Ils ont fait leur campagne électorale. Et moi, quelque part, cette campagne électorale, elle ne me regarde pas. Si vous voulez, c'est comme en France, lorsqu'on a voté contre le traité européen, on nous a dit, mais les Français ne savaient peut-être pas tout, puis finalement, on nous l'a quand même fait passer. Il faut arrêter de dire que lorsque les gens ne votent pas dans le sens qui est celui de la bien-pensance, qui est celui de la bien-pensance européenne, qui est celui de l'idée commune que se font les Européens, les européistes, la Commission européenne, de l'avenir qu'on doit avoir ensemble, eh bien, c'est parce qu'ils ont mal compris, on leur a mal expliqué.
Sur quoi, concrètement, l'Union européenne doit-elle lâcher aux Britanniques ?
Sur les accords de libre-échange avec la Grande-Bretagne, évidemment la Grande-Bretagne, sur aussi la frontière, enfin avec l'Irlande, la Grande-Bretagne ne veut pas d'une nouvelle frontière technique avec l'Irlande. Elle veut pouvoir bénéficier encore de l'accès au marché. C'est sur ça qu'il faut continuer à faire peser les efforts. Et puis
il faut leur accorder les avantages de l'accès au marché sans leur faire payer la participation à l'Union européenne.
Mais parce que ce sera aussi notre avantage. Parce que ce sera aussi notre avantage. Donc par conséquent, je ne vois pas pourquoi. Vous savez, je veux dire, la meilleure réponse au Brexit, c'est l'Europe des nations. Parce qu'avec nous, une Europe à la carte, dans laquelle il y a des intérêts intelligents, des intérêts de nation à nation.
C'était déjà le cas pour les Anglais, l'Europe à la carte. Ils sont pas dans l'euro.
Pas vraiment.
Ils en bénéficient, pas vraiment. L'Europe à la
carte. Ils avaient Schengen, ça a été aussi un des points de crispation très fort, Schengen. Donc, je pense que la meilleure réponse au Brexit, c'est d'avoir une Europe des nations, dans laquelle des États s'entendent sur des objectifs communs, mais dans lesquels ils ne sont pas verrouillés.
Pour vous, il est entièrement exclu qu'on reprenne tout à zéro, qu'on demande aux Britanniques de retourner aux urnes pour un nouvel référendum qui pourrait peut-être éclaircir un peu la situation.
C'est aux Britanniques de le décider. Sincèrement, c'est aux Britanniques de le décider. Moi, je ne suis pas l'avocat des Brexiteurs et je ne suis pas l'avocat du maintien. Je suis l'avocat des souverainetés des nations. Je pense que les nations sont souveraines. Elles doivent décider librement de leur sort. Si les Britanniques voulaient revoter demain, mais c'est leur responsabilité, c'est leur histoire, c'est leur décision. Je n'y trouverai d'ailleurs rien à redire. Les Britanniques ont voté dans un sens. Ils ont voté dans un sens qui a déplu, visiblement, à l'Union européenne. Oui, c'est sûr, la Grande-Bretagne est un contributeur net important aussi de l'Union européenne. Donc l'Union européenne a y perdre en voyant la Grande-Bretagne partir. Mais ils ont voté dans ce sens. Respectons leurs paroles, aidons-les.
Justement, vous dénoncez un système carcéral, c'est le mot que vous employez, Sébastien Chenu, et pourtant, le Rassemblement national, lui, ne prône pas la sortie de ce système carcéral.
Non mais nous prenons, il ne vous a pas échappé que les choses ont quand même évolué, nous prenons de revoir complètement l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne.
Mais en restant dans la prison.
Non, nous souhaitons exactement changer toutes les règles
du jeu. Quand on est prisonnier, si vraiment c'est la prison, on n'a qu'une envie.
On souhaite oxygéner tout
ça. Si vraiment on est en prison, on n'a qu'une envie. C'est pas de revoir le règlement interne de la prison, c'est de scier les barreaux.
Ce que je vous dis, c'est l'Europe des nations, c'est-à-dire des partenariats entre nations libres et souveraines. C'est-à-dire ne plus être dans une prison, être dans une relation. Dans une relation d'échange. Dans une relation dans laquelle les intérêts des uns et des autres sont pris en compte.
Mais pas de Frexit, Pas de Frexit.
Si les Français voulaient le Frexit, il faudrait leur demander.
Mais si vous étiez au pouvoir,
par référendum,
vous organiseriez un référendum sur le Frexit?
La première des choses, et nous l'avons dit, la première des choses que nous ferions, c'est d'abord aller renégocier des traités, reconquérir nos souverainetés, demander à Bruxelles de nous rendre nos souverainetés, en particulier celle qui est liée au législatif, à la loi, la nécessité que la loi française s'impose devant les directives bruxelloises. Et puis, si Bruxelles bloquait, mais moi je pense que Bruxelles n'a aucun intérêt à cela. Si Bruxelles bloquait, on demanderait aux Français leur avis, mais évidemment, avec ce que nous proposons, ce scénario que nous proposons, c'est une autre Europe qui se dessinerait. Et là, elle ne serait évidemment pas carcérale. Ce serait une Europe des coopérations, ce serait une Europe à la carte, dans laquelle les nations négocieraient entre elles selon leurs intérêts et non pas contre leur peuple.
8h40 sur France Info, on marque une petite pause pour le rappel de l'actualité avec Camille Revel.
La pollution de l'air deux fois plus meurtrière qu'on ne le croyait. Elle tuerait prématurément près de 9 millions de personnes dans le monde, dont 67 000 en France, résultat d'une étude menée par des chercheurs allemands. 391 voix contre, 242 pour. Les députés britanniques rejettent encore le traité de Brexit. Aujourd'hui, ils votent sur la possibilité d'une sortie de l'Union européenne sans accord. La solution à l'impasse ne peut être trouvée qu'à Londres, dit la France. Le Parlement français lui adopte définitivement la loi anti-casseurs, mais des recours au Conseil constitutionnel sont en préparation sur ce texte controversé. Il est liberticide, dit la gauche. Les États-Unis continuent de faire voler les Boeing 737 Max. Pas de raison de les immobiliser, dit Washington, malgré le crash dimanche. L'Europe, elle, les interdit dans son espace aérien. Ce sera un match compliqué, reconnaît le capitaine Nabil Fekir. L'OL en quête d'un exploit pour une place en quart de finale de Ligue des Champions. Les footballeurs lyonnais jouent sur la pelouse du Barça à 21h après un match nul 0 partout à l'aller.
Ah, je ne sais pas si on est à l'antenne de France Info. Voilà, on a une petite coupure de son en ce qui nous concerne. Ici, on est toujours avec le porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Et la question des élections européennes qui approchent, on est à moins de 80 jours maintenant du scrutin. Renaud Dely.
Et c'est une info France Info ce matin, Sébastien Chenu. On a appris que l'ancien ministre italien des Affaires européennes, Sandro Gozzi, pourrait être présent sur la liste de La République En Marche, qui pourrait donc présenter des candidats européens sur sa liste. Est-ce que le Rassemblement National pourrait présenter des candidats européens sur sa liste? Et pourquoi pas d'ailleurs des candidats parmi vos amis italiens de la Ligue?
Non, je ne crois pas que ce soit notre logique. Nous, on souhaite l'Europe des nations, donc on présentera des nationaux. Mais ça va dans la logique intellectuelle d'Emmanuel Macron. Il voulait des listes transnationales il y a déjà quelque temps. Donc ce n'est pas notre souhait que d'avoir cela. D'autres peuvent peut-être faire ces choix. Ce n'est pas notre
Mais
souhait.
Mais cette Europe des nations, des coopérations entre les nations libres que vous évoquiez, elle ne peut pas permettre, par exemple, de présenter des alliés, puisque Matteo Salvini et la Ligue sont des modèles aux yeux de
l'Union nationale. Ce serait une manière de montrer que vous n'êtes pas seul en Europe.
Non, mais d'accord, mais enfin, on peut présenter aussi à ce moment-là un Allemand, un Luxembourgeois, un Suisse. Je fais exprès de prendre des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Enfin, je veux dire, tout ça n'a pas de sens.
Les Allemands le sont. Hein.
Oui, non, mais j'ai pris la Suisse. Tout ça n'a pas de sens. Ce que je veux dire, c'est que la France envoie des parlementaires français pour défendre ses intérêts. Ces parlementaires français seraient en capacité demain, je l'espère, de pouvoir négocier avec les Allemands, avec les Italiens, etc. Je ne vois pas tellement l'intérêt d'ouvrir nos listes à des personnalités politiques européennes. Je n'en vois pas sincèrement
l'intérêt. Même des binationaux, des franco-italiens.
Non, mais je trouve ça sincèrement gadget. Je trouve que c'est du gadget et que ça ne répond. Mais ça a une logique politique chez Emmanuel Macron. Ça, je l'ai bien compris depuis bien longtemps. Mais moi,
il y a très longtemps, il y avait eu un franco-roumain sur une liste qui était Gustave Fandéa sur une liste du Front National menée par Jean-Marie Le Pen.
Il y a très longtemps. Et c'était, on en avait déjà parlé la dernière fois que j'étais venu ici.
On va pas refaire le débat. Il y a 5 ans, le Front National était arrivé en tête aux élections européennes, un peu moins de 25% des voix. Est-ce que si c'est pas le cas cette fois-ci, ce serait un échec pour Marine Le Pen?
Non, écoutez, moi je crois que il y a plusieurs enjeux dans cette élection européenne. D'abord, c'est envoyer un message clair à Emmanuel Macron. Lui dire que la politique qu'il mène en France ne suscite pas l'adhésion des Français. La deuxième chose, c'est montrer qu'il y a un autre chemin pour la construction, la poursuite de la construction des relations entre pays européens. On peut faire autrement. On vient d'en parler avant. L'Europe des nations, c'est une autre perspective, et je pense que nous sommes les leaders de cet autre chemin. Donc ça, ce sont deux enjeux très différents. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit un Emmanuel Macron très isolé sur la scène européenne. Je dirais même humilié. Quand Angela Merkel lui fait savoir qu'elle souhaite que le siège de l'ONU soit aujourd'hui qui est celui de la France, que nous avons gagné après la Seconde Guerre mondiale contre l'occupant nazi, eh bien que ce siège soit quelque part mutualisé pour faire entendre les voix européennes, c'est une humiliation qu'elle lui fait subir qui est, je pense, très importante et sur laquelle il faudra que le président nous apporte des garanties. Parce que qu'est-ce qu'on a en échange, nous, de laisser ce siège au Conseil de sécurité ? Quel est l'intérêt de la France de lâcher ce siège ?
La France a déjà dit qu'elle ne le ferait pas, qu'elle ne le lâcherait pas, qu'elle ne partagerait pas son siège.
Oui, mais à partir du moment où Mme Merkel,
le
demande, je pense que les choses évoluent. On a un président
qui pense qu'il faut lui obéir.
Ah bah, je pense que, évidemment, en général, les gouvernements français sont assez soumis à la doxa allemande, aux exigences de l'Allemagne.
Non, mais
on nous dit toujours ça au début.
Je rappelle une chose. Y compris avec le traité d'Aix-la-Chapelle, vous nous avez expliqué que c'était déjà fait, qu'on allait laisser notre siège.
Quand nous avons dit cela,
il n'est pas question de le faire.
Quand nous avons dit, on nous réclamera le siège que nous avons gagné de haute lutte à travers les générations passées, on nous réclamera ce siège. On nous a dit fake news. Aujourd'hui, Madame Merkel le réclame. On nous dit, ça ne se fera jamais.
Ça fait longtemps qu'il y a des revendications pour créer un siège européen commun à l'Union européenne.
Il n'y a pas que cela.
De membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ça fait très longtemps que la France refuse. On n'a pas dit fake news lorsque cette demande a été formulée, mais c'est lorsque le Rassemblement national a expliqué que c'était acté et que la France
je vais vous dire, je pense qu'intellectuellement c'est acté chez Emmanuel Macron. Parce que c'est dans sa logique politique.
Vous avez des informations.
Non, parce que c'est sa logique politique. Parce que c'est sa logique politique. C'est la disparition des nations derrière l'Europe. C'est ça, logique politique. Autre chose.
L'humiliation. Il a déjà dit hier que ce ne serait pas le cas. Alors, soit le gouvernement n'est pas au courant des intentions d'Emmanuel Macron. Vous prêtez au président des intentions qui ne sont pas les siennes.
Je prête au président des intentions que je connais, qui est celle qui est la disparition des nations derrière l'Europe.
Il y a un plan secret pour laisser notre siège à l'Europe.
C'est pas un plan secret. C'est une logique politique qu'il assume plutôt. Une autre humiliation. La successeure de Mme Merkel a dit dernièrement qu'elle souhaitait que le Parlement aille définitivement, le Parlement européen, s'installer à Bruxelles. Là encore, aucune réaction du président de la République. Tout ça va très bien. Encore une fois, on déshabille ce que nous avons pu obtenir de l'Union européenne, on déshabille notre pays. Ces petites humiliations à la petite semaine sont de très mauvais signes.
Ça fait de très longues années que la France se bat pour que le Parlement européen reste aussi à Strasbourg, même si ça coûte plus cher d'ailleurs en termes de fonctionnement à l'Union européenne. Vous qui êtes souvent attaché à ne pas dépenser les deniers publics, vous pourriez d'ailleurs être favorable.
Que le danger avec Emmanuel Macron, c'est que lui ne sera plus attaché à se battre pour cela. C'est que lui n'est plus attaché à cela. Et puis un échec quand même qu'on peut noter, la fameuse taxe GAFA. Là encore, la taxe GAFA au niveau européen, elle ne passe pas. Là encore, pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts divergents. L'Allemagne, par exemple, n'en veut pas. Elle pense qu'elle aura des mesures de rétorsion des États-Unis en matière automobile.
Et donc vous félicitez que la France montre l'exemple en matière de taxe GAFA, justement, puisque
Je pense qu'on va pas assez loin. Je pense que la taxe GAFA, elle pourrait être plus que 3%, qu'elle ne devrait pas s'attaquer uniquement aux publicités, qu'elle devrait non pas s'attaquer... L'important, c'est pas de savoir où ces entreprises GAFA ont leur siège. Vous savez, Facebook, c'est 108 emplois en France. C'est là où ils ont des consommateurs, là où ils ont des utilisateurs.
Mais c'est un premier pas déjà, c'est un premier pas qui est louable.
National. Mais on voit qu'Emmanuel Macron.
National. C'est une façon de défendre l'international justement que la France impose seule cette taxe GAFA.
Mais il faut aller beaucoup plus loin. Hein. Franchement, 3% c'est pas grand chose. Mais il faut aller beaucoup loin. Mais ça montre une chose. On nous dit on ne peut jamais rien faire sans l'Europe. Alors pourquoi on fait ça? Bien sûr qu'on peut faire des choses sans l'Union européenne. Mais il faut aller bien plus loin
pour pouvoir imposer cette taxe américaine.
Je dis simplement que le président de la République est isolé. Je dis qu'il n'a pas d'alliés et je dis qu'il est en train aujourd'hui de soumettre la France aux exigences de Madame Merkel et qu'il le fait sans résister, qu'il le fait sans rien demander en échange et que finalement ce président il poursuit sa déconstruction de l'idée nationale et c'est un des enjeux de cette campagne européenne pour revenir à la première question.
Sébastien Chenu, quelle est votre position sur ce qui se passe en ce moment en Algérie? Est-ce que vous vous félicitez de la mise en retrait, même si elle est encore provisoire, du président Abdelaziz Bouteflika?
Écoutez, je pense que ça, c'est une décision quand même plutôt sage, même si je ne suis pas dupe. J'entends tout le monde dire c'est formidable, les Algériens ont gagné le pari de la démocratie, etc. Plusieurs choses.
Pas grand monde dit ça. Depuis deux jours, tout le monde dit, on a bien senti qu'il y avait une entourloupe.
Il y a eu beaucoup d'hommes politiques français. Je peux vous citer tous les tweets de M. Mélenchon à je ne sais plus qui disait formidable, etc. Attention.
Mélenchon, c'est pas toute la classe politique.
C'est pas le cas du gouvernement qui est extrêmement prudent.
Bien sûr, attention. Les révolutions n'amènent pas toujours, même lorsqu'elles sont pacifiques, la démocratie. On l'a vu dans un temps récent, y compris dans cette partie du globe. La deuxième chose, c'est qu'il y a une incertitude sur la suite. C'est le moins qu'on puisse dire. Une incertitude. Le président Bouteflika nous dit qu'il ne se représente pas. Il reporte l'élection présidentielle sine die. On est donc dans une incertitude très importante. Cette incertitude, elle peut avoir des conséquences. Je ne vous dis pas elle va avoir des conséquences, je vous dis elle peut avoir des conséquences. Et il est de notre responsabilité, lorsqu'on fait de la politique, de les prévoir. Je vois un gouvernement français prudent, il a raison de l'être. D'ailleurs, les Algériens décideront de leur sort, c'est leur boulot. C'est la direction qu'ils choisiront qui sera prise. Mais les conséquences que ça peut avoir pour notre pays, elles sont de deux ordres. Dans les enjeux économiques, cette période d'incertitude peut brouiller les enjeux économiques, et puis des enjeux migratoires. On le sait. Alors, ce ne sont pas mes chiffres, j'ai repris ceux de Mohamed Sifaoui, on peut peut-être les contester, mais on sait qu'il y a beaucoup d'Algériens, il y a un certain nombre d'Algériens établis en France, qui ont une famille de l'autre côté de la Méditerranée. On peut imaginer que dans des périodes d'incertitude, beaucoup d'Algériens, une jeunesse, lorgne vers la France et souhaite y venir.
On peut l'imaginer, mais il n'y a rien de certain. Par exemple,
gouverner, c'est prévoir.
Mais par exemple, l'Algérie a traversé 10 ans de guerre civile terrible qui n'ont pas généré les flux migratoires que vous prophétisez.
D'accord, mais gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, je pense que les situations ne sont pas exactement les mêmes. Il faut se prémunir d'une possible immigration qui serait une submersion en réalité qui se compterait en millions.
Donc, autoritaire qu'un risque d'immigration massive.
Par conséquent, je pense qu'il faut suspendre l'octroi des visas avec l'Algérie. Le temps d'y voir plus clair.
Sur quelle base juridique?
Le problème, vous savez, il y a un certain nombre de facilités qui sont accordées aux personnes qui ont de la famille en France. Donc, ce sont ces dérogations sur lesquelles on peut revenir. Elle est là.
Uniquement aux gens qui sont donc de nationalité algérienne.
Les Algériens qui voudraient venir en France demain, je pense qu'il faut être très vigilant parce que tant qu'il n'y a pas de calendrier de la part du gouvernement algérien, on est dans le brouillard et dans l'incertitude la plus absolue.
Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National. Vous restez, si vous le voulez bien, avec nous. On se retrouve dans une minute. Il est 8h51. Camille Revel pour le rappel de l'actu.
Il n'y aura pas de négociation sur le Brexit. Le Royaume-Uni a épuisé sa dernière chance. C'est le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, qui l'assure ce matin. Le Parlement britannique rejette à nouveau l'accord conclu avec Bruxelles. Il vote aujourd'hui sur la possibilité d'un départ de l'Union européenne, cette fois sans accord. Une contre-expertise médicale commandée par la famille d'Adama Traoré met en cause les gendarmes dans la mort du jeune homme en 2016 à Beaumont-sur-Oise. Sur France Info, l'avocat de la famille, Yacine Bouzrou, assure que son interpellation est à l'origine du décès et demande des poursuites contre les gendarmes. L'ancien numéro 3 du Vatican, le cardinal Pell, condamné à 6 ans de prison en Australie pour pédophilie, il va faire appel de cette condamnation. Le Boeing 737 Max, désormais interdit de vol dans le ciel européen, décision après le crash d'un appareil en Éthiopie dimanche, les États-Unis, eux, n'ordonnent pas l'immobilisation du modèle. Près de 9 Français sur 10 se déclarent lecteurs. Un tiers lit plus de 20 livres par an. C'est le résultat du baromètre du Centre National du Livre. Nos livres préférés, ce sont les romans, policiers, de science-fiction ou bien d'amour.
France Info.
Toujours avec Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement National. Renaud Dely.
Le Parlement européen a voté hier la levée de l'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen sur une demande de la justice qui instruit donc l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires du Rassemblement National. Il y a aussi la levée de l'immunité parlementaire d'une autre eurodéputée sortante du Rassemblement National, Dominique Bilde, qui a été votée. Comment est-ce que le Rassemblement National espère surmonter cette affaire qui porte, il y a plus d'une quinzaine aujourd'hui, de mises en examen, notamment pour détournement de fonds publics? Rappelons que le Parlement européen soupçonne le FN d'avoir détourné entre 5 et 7,5 millions d'euros entre 2010 et 2017.
Cette petite question habituelle sur les assistants parlementaires, c'est une procédure qui est en cours et nous contestons. Cette disposition, ces poursuites qui nous sont faites, nous les contestons depuis le début. Donc nous y répondons de la même façon à chaque fois. La bataille juridique continue. Nous contestons ce harcèlement judiciaire qui nous est fait. Donc je ne peux pas vous dire autre chose que simplement que nous le contestons. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls députés européens à être confrontés à ces difficultés et à ce harcèlement judiciaire. Mais chez nous, il y a un harcèlement. Chez les autres, on laisse les choses se passer. Je pense à un certain nombre de députés du Modem qui pourraient répondre.
Sébastien Chenu, vous
choses.
Utilisez fréquemment cet argument. Il se trouve que pour les mêmes raisons, François Bayrou a dû quitter le gouvernement. Donc,
J'attends de voir quand le Modem sera poursuivi de la même façon avec le même type de harcèlement. À ce moment-là, nous pourrons parler d'équité. Nous contestons ce qui nous est reproché. Nos avocats le contestent formellement. Fermement, et nous ne transformerons pas nos collaborateurs parlementaires en fonctionnaires du Parlement européen. Ce sont des hommes et des femmes engagés politiquement.
Vous dénoncez un harcèlement judiciaire. Comment est-ce que vous expliquez que ces accusations, elles viennent aussi de l'intérieur, en l'occurrence? Une de vos collègues, Sophie Montel, eurodéputée sortante aussi, ex-membre du Rassemblement national du Front national pendant 30 ans, qui accuse Marine Le Pen d'avoir mis en place ce système et demandé aux députés européens du FN de laisser son comptable, le comptable de Marine Le Pen, leur choisir un assistant qui travaillerait, en fait, pour le parti.
Vous relayez non seulement des supputations, mais des accusations dénuées de fondement. Vous relayez cela à l'envi. Elle a écrit un livre. Vous savez, ça me faisait penser à cette excellente citation de Pierre Desproges. Quand on a lu son bouquin, on a l'impression d'avoir lu tout Sartre, c'est-à-dire qu'on a à la fois lu la nausée et les mains sales. Vous trouvez ça très bien de relayer ça. Moi, je trouve que lorsqu'on a passé, 30 ans dans un mouvement politique, qu'on en a été l'élu, qu'on en a porté la parole pendant 30 années...
On se tait, c'est ce que vous voulez dire. On raconte pas ce qu'on a vu.
Non, c'est pas ça. On peut avoir la décence de ne pas dire de contre-vérité et de partir avec élégance si on part pour de bonnes raisons. Moi, je crois que, dans le cas présent, Madame Montel souhaite régler des comptes d'une façon qui n'est pas très... qui ne la grandit pas et qui en dit probablement plus long sur ce qu'elle est réellement que sur ce qu'est le Rassemblement National.
L'image du Rassemblement National fait l'objet, comme chaque année, d'une grande enquête que France Info a dévoilée hier. On se rend compte que votre parti remonte la pente en termes d'image après une année 2017 qui a été catastrophique. Est-ce que vous estimez que le débat complètement raté d'entre-deux-tours est désormais un épisode oublié par les Français ?
Nous ne comptons pas sur l'oubli des Français. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement de considérer qu'aujourd'hui, il y a deux modèles qui se font face. Ces deux modèles, d'ailleurs, ils existent ailleurs qu'en France. Un modèle libéral européiste et un modèle souverainiste dans lequel la place de l'État est importante et demeure importante. Ces deux modèles, ils sont incarnés en France. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Et tout ce qu'il y a entre les deux, en réalité, n'a pas de prise, ne prend pas. Donc il est normal que ces deux modèles se fassent face, et il est normal qu'Emmanuel Macron retrouve Marine Le Pen face à lui, parce qu'ils incarnent tous les deux, je crois, deux chemins différents, deux possibilités qui s'offrent aux Français pour l'avenir de leur pays.
Cette grande enquête de la Sofres pour France Info, elle montre aussi que 55% des Français considèrent encore aujourd'hui que le Rassemblement National est un danger pour la démocratie. C'est exactement le même niveau que lors de l'accession de Marine Le Pen à la tête du parti en 2011.
Alors, je note d'ailleurs...
Ce que vous appelez la dédiabolisation, ça marche pas.
Non, mais je note d'ailleurs que Marine Le Pen, sur tous les traits d'image, est en progression. Ce que vous signalez, un trait d'image...
Elle avait beaucoup chuté
sur le parti
l'année
politique.
Précédente,
elle remonte sur tous les traits d'image, sans exception.
Vous avez raison, elle ferait par exemple une bonne présidente de la République pour 19%
Mais là, vous prenez le dernier des traits d'image, je pourrais vous prendre le premier des traits d'image où elle est à plus de 50%. Donc, on peut toujours voir le verre à moitié vide, c'est ce que vous faites d'ailleurs avec certaines délectations.
Je peux vous citer d'autres chiffres. Elle est honnête et inspire confiance pour 23% des Français.
On fera ça tous en même temps, si c'est possible.
Donc, par conséquent, moi, ce que je crois, c'est que nous sommes, effectivement, nous avons traversé une élection présidentielle qui n'a pas été couronnée du succès parce que nous n'avons pas été élus, mais nous avons fait un score historique. Il y a une fidélité, non seulement de nos électeurs qui est très forte, mais il y a des gens qui viennent vers nous. Nous devenons le cœur battant de l'opposition. C'est nous, les opposants à Emmanuel Macron, et pas une opposition de droite, comme on essaierait de nous le faire croire, une opposition qui dépasse les vieux clivages. Nous rassemblons des gens qui viennent de la droite et qui viennent de la gauche. Vous savez, je suis élu dans un territoire où François Fillon a fait 5%. Rassurez-vous, la dédiabolisation, elle fonctionne depuis bien longtemps, sinon je ne serais pas député à l'Assemblée nationale si les électeurs de Denain et d'Ouchy-les-Mines avaient le sentiment d'avoir élu le diable. Je crois que, en réalité, le diable, c'est ceux qui les ont représentés pendant des années passées. Donc, rassurez-vous, les électeurs sont en réalité bien plus informés, bien plus conscients qu'un certain nombre de commentateurs politiques parisiens. Et comme vous n'êtes pas parisien ça, d'origine, ça ne s'adresse pas à vous, Renaud Dely.
Voilà, Renaud Dely qui est picard, évidemment, n'a pas pris pour lui.
Cette précision.
Renaud, merci à vous, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. Vous étiez ce matin l'invité de France Info.